du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 764 du coq à l'âne. Alors, en direct de Briançon, chez notre hôte Philippe Esquer du Casino Circus, autour de la table de Blackjack, comme d'habitude, nous avons Philippe Stockley. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Jean-Paul Grolier.
Bonjour.
Yves Honoré.
Bonjour.
Et notre dernière invitée briançonnais, c'est Arnaud Murgia qui est là. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors, avant de laisser la parole à Philippe pour son édito, je tenais à te remercier Arnaud d'avoir accepté cette dernière invitation du Coq à l'âne podcast pour Briançon, car il faut savoir que le début de notre relation n'a pas été simple avec Arnaud, mais on en reparlera dans quelques minutes. Pour le moment, la parole est donc à Philippe Stockley.
Dernier Coq à l'âne avant fermeture. Enfin, à Briançon, je vais le dire souvent ça, à Briançon. Aujourd'hui, on ferme la boutique, on rend notre tablier, on fait une pause définitive. Le Coq à l'âne, vénérable émission d'Alpe 1, portée depuis des années par l'irremplaçable, j'ai bien dit irremplaçable, Thierry Maslis, ici présent, oui, va donc s'arrêter. Dernière émission, clap de fin. Et comme diraient les Anglais, last but not least, à traduire par la dernière, mais pas la moindre. Dernière émission égale hommage. Il y en aura un autre tout à l'heure, mais je voulais d'abord remercier Thierry, ici présent, pour avoir transporté son Coq à l'âne jusqu'à Briançon, bravant tempête de neige et Covid-19. De grands moments, de superbes souvenirs, et je te remercie Thierry pour tout ça. Merci aussi pour ce fameux petit sourire en coin, signe d'une confiance, j'espère, réciproque. Merci pour cette liberté de propos que tu m'as laissée. Et puis, il fallait le dire aussi, merci parce que tu m'as toujours laissé le choix dans la date pour les émissions de Briançon. Et puis, merci, bien sûr, aux Coqaliens. Notre Jean-Paul en tête, et bien sûr Yves et Rémi, amis absents aujourd'hui pour cause de Côte d'Azur. Et puis merci aussi à nos invités, Gérard Fromm, Nicolas Busca, Guillaume Le Bigot, Freddy Warron, nos fidèles parmi les fidèles, et merci à tous les autres. Même si j'ai quand même un regret, c'est de n'avoir invité qu'une seule femme en 30 émissions, alors merci Michel Lessard.
Ouais.
Un autre hommage arrive à la suite, car depuis 18 ans que nous participons aux émissions briançonnaises d'Alpe 1, 18 ans quand même, si j'ai un beau souvenir en tête depuis 2017, c'est bien celui d'un homme, d'un regard espiègle, d'un sourire presque moqueur, celui qui se définissait comme un polémiste taquin, le souvenir d'un certain Jean Lecaze, qui nous a quittés en 2010. Et pour commencer, pour vous remettre dans l'ambiance, je vais vous lire une intervention de Jean qui date de décembre 2019. À cette époque, Thierry nous appelait à tour de rôle tous les vendredis matins pour une rubrique briançonnaise. Jean-Paul Grolier, toujours fidèle au poste, et moi-même. Ce matin-là, Jean nous racontait une balade dans la gargouille de Briançon. Dans une ambiance de douceur entre les costumes de Castellane et les bouquins de Roubaud, nous descendions la gargouille dans une odeur de savonnette en faisant miauler les marmottes, en achetant une barbe à papa chez Turin, un conte de fées. Je me fais un plaisir de m'arrêter chez Grolier, vous savez, l'Astérix de la gargouille. Devant sa boutique, il y a toujours des pendeloques, comme moulin à prière au Tibet. J'écartais les pantalons entre deux chemisiers et me glissais dans la boutique, retrouver Chantal Grolier et écouter les complaintes du pauvre Jean-Paul affairé, occupé à rassurer une Parisienne sur son élégance. Jean-Paul, un commentaire par Toutatis ?
Oui, non, mais j'ai grand plaisir à entendre ton hommage pour Thierry. Et puis, je suis très ému à l'idée d'évoquer Jean Lecaze, que tu évoques Jean Lecaze. Bonne histoire. Et qui plus est, dans la gargouille.
Et qui plus est ?
Quand on me connaît.
Astérix. Sacré Jean, rien ne nous destinait à nous rencontrer, à devenir complices. Lui, homme de droite, de cette droite républicaine respectable, et moi plutôt à gauche dans ces années-là, de cette gauche à l'époque solide dans ses idées. À l'époque, je parlais de lui parfois comme d'un père spirituel, mais avec le temps, j'ai compris que ce fut une rencontre humaine comme on l'en fait rarement dans sa vie. Sacré Jean, chaque fois que je pense à lui, il me revient le même souvenir. Ma dernière visite dans sa chambre à l'hôpital de Briançon, et cette dernière phrase... Tu vas bientôt avoir de mes nouvelles dans le journal. De ces moments qu'on n'oublie jamais, mélange d'émotions et de complicité définitive. Du coup, comme l'aurait jamais dit Jean, j'ai l'introduction que Jean aurait fait à cette émission. Je vous le jure, je l'ai rêvé cette nuit. Jean, c'est à toi. Chers auditeurs d'Alpe 1, bonjour. Et dites-moi, mes amis, rendez-vous compte, c'est la quatrième fois à Briançon que nous invitons le maire de notre ville au Coq à l'âne d'Alpe 1. Je n'aurais pas fait mieux, Jean. J'aurais pu appeler ça, cet édito, du bon usage du second degré. Ça lui aura bien plu à Jean, cette jolie phrase. L'indispensable second degré, une institution pour Jean, que dis-je, quasiment une religion. Jean qui se moquait avec délectation de ceux qui pensaient que le second degré évoquait une météo un peu trop fraîche. Bien sûr, tout le monde aura compris qu'avant Arnaud, aujourd'hui invité de notre dernière émission à Briançon, c'est Gérard Franck qui était venu au micro du Coq-à-l'Âne à trois occasions en tant que maire. Merci encore donc Jean Lecaux d'être toujours présent à nos côtés, d'avoir une dernière fois envoyé cette petite impulsion, cette petite étincelle, celle qui nous a fait prendre du recul par rapport à ce que l'on entend et nous empêche de nous prendre trop rapidement au sérieux. Les choses ne sont jamais toujours ce qu'elles semblent être. C'est un principe auquel nous nous sommes souvent attachés au Coq-à-l'Âne. Et aujourd'hui, pour la dernière, mais pas la moindre, il sera essentiel d'y penser jusqu'au dernier au revoir que prononcera Thierry à la fin de l'émission. Salut à toi Jean et bienvenue Arnaud.
Merci beaucoup.
Oui, alors c'est vrai Arnaud, tu as pas connu Jean Lecaux.
Non mais figure-toi que c'est très amusant parce que j'ai été samedi soir avec Maxime Lecaux.
Ah,
c'est descendant, bien entendu, avec qui je suis très ami, puisqu'on a joué longtemps au rugby ensemble, et justement, on parlait de ça, et c'est très amusant. Je ne sais pas du tout que tu allais parler de ça, de Jean Lecaux, mais que je connais par les histoires que Monique Colagny a bien voulu m'en raconter par la force des choses. Mais on se posait la question d'un hommage, c'est quelqu'un qui a compté, puis tu vois, les choses se suivent et les générations passent.
Donc, ouais. C'est ainsi. Alors, c'est vrai, Arnaud, que j'ai passé de longs mois à te brocarder sans te connaître lorsque tu es revenu sur Briançon. Alors, je fais mon mea culpa. Hein.
Il n'est jamais trop tard pour être un bon catholique.
De longs mois avant de t'inviter au Coq-à-l'Âne. D'ailleurs, je me souviens, la première invitation, j'étais persuadé de me prendre une fin de non-recevoir de ta part. Eh bien non, tu es venu. Et ta première, c'était le 5 juin 2016. La première où tu es venu à Gap, hein, puisqu'à l'époque on faisait l'émission à Gap. Et pourtant, Dieu sait que je ne t'avais pas épargné. Je retrouvais un petit truc. Souvenez-vous, c'était en 2014. Je crois que c'était juste avant les premières municipales auxquelles tu participais. L'UMP qui n'a pas l'air décidé d'offrir l'investiture à son jeune poulain. Du côté de l'instance départementale, on aurait plutôt misé sur un parachuté. Arnaud Murgia.
Allez, salaud, jusqu'où il pousse le vice quand même.
Ah, la politique. Bon, Arnaud Murgia n'est pas natif du coin, il est de Toulon. Il a vécu essentiellement entre Toulouse et Paris. Bon, mais maintenant il est domicilié à Briançon. Va falloir te faire une raison, Romain. Arnaud est briançonnais.
Je m'en fous de vos histoires. Je suis venu ici parce que c'est chez moi. Chez moi, vous m'entendez? Ici, je suis chez moi.
Voilà, ici c'est chez lui et la partie s'annonce tendue. Du coup, la droite partira en ordre dispersé aux prochaines municipales sur Briançon, ou pas? Eh oui, ou pas, car rien ne dit qu'au dernier moment, il pourrait y avoir un arrangement entre les différents candidats de droite.
De toute façon, il faudra bien trouver un terrain d'entente. On ne va pas avoir que des rapports belliqueux non plus.
Ah oui,
non,
ouais, c'est pas faux. Ah oui, c'est pas faux, bien sûr. Regardez à Paris, Rachida, elle a jeté l'éponge. Eh oui, elle a laissé place nette à NKM. Bon, nous n'en sommes pas là. Une chose est sûre, si la droite briançonnaise part en ordre dispersé, cela ne déplaira pas à Gérard Fromm. Hein. Une droite qui se déchire, c'est toujours bon à prendre pour le maire PS de Briançon. D'autant plus qu'il pourrait y avoir un troisième larron dans la partie, en la personne de Xavier Cré, conseiller général et maire de Villard-d'Arène.
Eh oui, nous sommes en pleine affaire de famille.
Un boulevard donc pour Gérard Fromm si aucun accord n'est trouvé entre les différents partis. Alors Romain, pourra-t-il se désister s'il n'a pas l'investiture? Il posera la question. Mais moi, je l'entends déjà ravaler son amertume. Seul, dans sa chambrette éclairée d'une lueur blafarde que seuls les bouts de chandelle savent distiller, je l'entends déjà prêt à lâcher.
Alors, il y a 10 jours, moi je vous le dis, hein, je suis à deux doigts de tout laisser tomber.
Voilà, ça c'était donc il y a quelques mois avant ta première participation au municipal. Tu te souviens de cette première participation?
Oh oui, tout le reste avec.
Allez.
Bah. Non, mais moi je suis pas historien. Je suis bien mal à l'aise de commenter le passé. J'en ai été acteur. Je suis toujours acteur de la vie politique briançonnaise et haut-alpine. Je regrette absolument rien de mon parcours. Et puis c'est ainsi. La presse, de temps en temps, elle brocarde. Et puis de temps en temps, elle dit les choses. C'est ainsi. C'est le jeu de la démocratie. Si on veut pas être critiqué, il faut faire autre chose. Pas de souci avec ça. Pour le reste, les commentaires, c'est pas à moi de les faire.
Ton rapport avec, à l'époque, Robin Griska, ça a été quand même compliqué. On peut s'en souvenir de ça.
Oui, non, mais d'accord. Enfin, honnêtement, c'était il y a bientôt.
Oui,
plus
oui,
de 10 ans,
je sais bien, mais c'est la dernière émission et j'étais content de t'avoir et j'étais content de pouvoir revenir sur ton début dans le Briançonnais.
Oui, non, mais je suis dont acte. Enfin, honnêtement, cette période-là, c'est une période extrêmement polémique, extrêmement clivante, dont tout le monde a tiré les leçons. Et honnêtement, je suis très, 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 très loin de tout ça. Je te laisse bien volontiers les analyses, les commentaires de tout ce qui a suivi. Je suis honnêtement tourné vers le présent et surtout vers l'avenir.
Alors, on a plusieurs sujets à voir avec, avec toi. On va parler notamment des migrants. Voilà, parce que, pareil, dans une autre émission où tu étais venu, tu as eu... Tu avais eu cette déclaration sur les migrants. Je te propose de l'écouter et on en parle juste après.
En matière de droit d'asile, la France est le pays le plus généreux d'Europe. C'est 80% des demandes de droit d'asile qui sont acceptées, pour par exemple 50% en Allemagne. On ne peut pas faire le procès, à la fois de notre pays ou de notre département ou de l'une de nos villes, un procès en inhumanité, parce que c'est totalement faux. On ne peut pas demander à la République française, à son État, à ses services de sécurité, à la fois d'assurer la sécurité de nos compatriotes, dans un contexte où, je le rappelle, on subit depuis 7 ans la plus grande vague d'attentats que notre pays ait jamais connue. Je rappelle juste que depuis la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan, il n'y a pas que des gens qui veulent du bien à la France et aux pays européens qui rentrent sur notre territoire. Faire croire aux gens qu'on est là pour les sauver, alors que la question factuelle est de les faire passer de Turin à Briançon. On ne meurt pas à Turin. Et quand on me dit qu'on va sauver des gens qui vont en montagne, je voudrais juste rappeler que ce sont des réseaux de passeurs payés pour les faire passer de la frontière italienne à la frontière française par des routes enneigées en plein hiver au mépris de leur vie.
Donc ça, c'était une déclaration que tu avais. C'est toujours la même aujourd'hui, on est bien d'accord.
C'était en 2017, je crois.
Ouais.
Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit à l'époque. Et je crois d'ailleurs, quand on écoute le débat politique actuel, que malheureusement... D'une part, les faits ont donné raison à tout cela, et d'autre part, je crains qu'une très grande majorité de Français aujourd'hui soit sur cette position qui est celle d'une maîtrise à la fois de notre souveraineté et de l'immigration, dont on voit bien aujourd'hui la difficulté que cela pose. Mmh.
Comment t'expliques le fait que tu aies souvent été attaqué sur ta position justement avec les migrants ?
Oh, parce que c'est l'ordre des choses. Quand on... Je crois que c'est un sujet qui fait partie des sujets qui sont et qui ont pour longtemps été tabous en France. Ça a fait d'ailleurs beaucoup de mal au débat démocratique. Parce que pendant qu'on a parlé, pendant des dizaines d'années, de ces sujets-là avec plus d'affect que de raison, malheureusement, on n'a pas traité les problèmes. Et on voit bien les difficultés que ça a conduit à mener. On voit bien aussi l'impasse dans laquelle tout ça nous a mené. Et aujourd'hui, regardez à quel point tous les pays européens sont en train de mener une politique migratoire extrêmement ferme. Et je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'idéologie derrière. Il faut qu'il y ait tout simplement une question de savoir quel est le devenir que nous voulons porter à la souveraineté de notre pays et surtout à la capacité que nous avons à accueillir des gens. Prenez le projet de loi immigration qui a été porté par Gérald Darmanin, voilà maintenant un peu plus d'un an et demi, et qui porte ses effets, qui avait dit des choses assez simples. Il faut que sur les métiers en tension, d'ailleurs la liste vient d'être publiée par décret il y a à peu près une semaine, on puisse accueillir les gens et qu'on puisse les accueillir bien, puisqu'on sait qu'on a un besoin. Mais quand on accueille des gens, il faut qu'on puisse leur donner un emploi, qu'on puisse les intégrer. Je pense que la circulaire qui a été faite par l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur la question de la nationalisation est une bonne chose. Mais par contre, on ne peut pas accepter de manière indéterminée et infinie que passe complètement en dehors des contrôles, en faisant la richesse de réseaux mafieux, qui sont des réseaux de passeurs, dont on sait qu'ils ont des tentacules sur toute l'Europe, des personnes qu'on ne peut pas contrôler, et dont finalement, auxquelles on ne sait apporter un destin. Donc je comprends que je sois critiqué, puisque finalement, ces sujets-là sont extrêmement polémiques, extrêmement tabous, mais j'assume totalement de devoir dire ces vérités-là, faute de faire le lit des extrêmes, ce que nous avons fait depuis les 20 dernières années.
Une question que je me posais aussi, c'est ta position sur l'échiquier politique en ce moment. Parce que tu ne fais plus partie des LR, tu en es parti. Où te situes ?
Non, je suis un homme de droite, je pense que personne n'en doute. Je ne me reconnais plus dans les Républicains pour des raisons qui sont d'ailleurs en train d'être mises en cause aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que la droite française, gaulliste, était une droite de gouvernement. Voilà. D'ailleurs, ce qui vient de se passer et les chiffres de l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains montrent que finalement, ma famille politique a plébiscité ce choix. Je veux dire, la droite républicaine, si elle ne gouverne pas, si elle n'est pas là pour tenir des propos de responsabilité, elle sera effacée. Donc, à la minute où on parle, vous savez très bien que mon choix personnel a été aussi dicté par ma proximité, que j'assume et que je maintiens, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec Édouard Philippe, parce que j'ai toujours considéré depuis 2017 que à partir du moment où l'intérêt du pays commandait de gouverner et d'apporter des solutions, il fallait que on respecte le choix qui avait été à l'époque un choix individuel des trois personnes que je viens de citer, mais ça a été le cas d'autres, de participer au gouvernement pour apporter des solutions. Et j'ai fait ce choix-là, bah, je ne me reconnaissais plus dans les Républicains républicains qui était devenue une famille d'opposition et qui tenait, me semble-t-il, un certain nombre de discours que je ne pouvais pas accepter. Enfin, comment les républicains ont pu s'opposer à la réforme des retraites ? Enfin, ça fait à peu près 20 ans que globalement tous les responsables de droite expliquent qu'il faut réformer les retraites. Et une fois qu'elle est portée par un gouvernement, mais qui n'est pas le leur, ils s'y opposeraient. Tout ça, moi, ne me convenait pas parce que j'ai une colonne vertébrale, je suis gaulliste et j'estime que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc je suis un homme de droite. Je pense que la responsabilité de maire qui est la mienne est aussi celle de devoir rassembler. C'est pour ça que dans mon équipe municipale, il y a des gens de toutes les sensibilités, beaucoup de gens de gauche, des gens de plutôt centristes. D'ailleurs, noterez que depuis que je suis maire, la majorité municipale, elle s'est élargie. Mmh. Il y a des gens qui étaient dans mon opposition qui maintenant sont avec nous. Et je crois que c'est mon rôle. Donc je crois que les fonctions qui sont les miennes m'obligent à avoir un rôle peut-être moins politicien que j'ai pu avoir par le passé, politicien au sens des partis politiques. Il y aura une élection présidentielle dans 2 ans. Il sera bien temps de prendre un positionnement plus clair. Pour l'instant, la situation, elle ne l'est pas.
On peut comprendre, Arnaud, qu'effectivement, au niveau local, l'étiquette politique, peu importe, à la limite, voilà, on sait que tu es une position à droite, comme tu le dis. Maintenant, que ce soit LR ou autre chose, à la limite, c'est pas grave. Mais avec les présidentielles qui pointent le bout de leur nez, là, il va bien falloir que tu prennes une position.
Je le prendrai. Pour l'instant, les choses ne sont pas claires. Qui sera candidat, déjà, nous ne le savons pas. Je crois que la course de petits chevaux qui a démarré, elle est loin d'avoir atteint son terme. Donc, je prendrai une position personnelle et publique, d'ailleurs, puisque en plus de ça, je m'impliquerai dans l'élection présidentielle. Mais je crois que le moment n'est pas venu. Pour l'instant, les choses ne sont pas claires. Donc, je vais regarder, écouter. Et ce que je crois, c'est qu'en tout cas, notre pays vit un moment assez extraordinaire dans lequel il y aura besoin d'un renversement sur un certain nombre de sujets. Voilà. Je crois que la situation économique qui est la nôtre, la situation géopolitique qui nous entoure, va nous obliger à faire des choix clairs. Et moi, en tout cas, je prendrai position personnelle sur un projet qui sera un projet de rupture.
Alors, on va commencer avec Rémi. Rémi, une question.
Yves.
Pardon, excuse-moi.
C'est pas grave. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que.
Mais t'as fait de la route.
Comme c'est pas mon prénom, je préfère.
T'as raison. Non, mais en même temps, on peut excuser. Il a fait de la route. Il a fait Gap Briançon quand
c'est
même.
C'est parce que je pensais à Rémi Suissa sur son
Rémi
bateau.
Rémi Côte d'Azur.
Sur la Côte d'Azur. Non. Je suis avec vous.
Yves Honoré, désolé.
Non,
vas-y,
c'est pas grave.
Je t'écoute.
Non, mais ce qu'Arnaud disait sur la municipalité est intéressante. Et on a eu un exemple dans le coin. C'est Patrick Ollier, qui était évidemment de droite et qui a mis comme premier adjoint Alain Fardella, qui était de gauche. Et en fait, c'était bien joué parce que pour une municipalité, en fait, on n'a pas vraiment de sujets politiques nationaux. Mmh. On a des politiques locales pour des gens locaux, avec des problèmes locaux. Et c'est intéressant ce que disait Arnaud, et j'espère que ça continuera dans cette tendance de prendre des gens de gauche, de centre et de droite, parce qu'il n'y a pas de raison sur une municipalité, surtout des municipalités qui ne sont pas, on va dire, énormes, parce qu'on est une grande ville, mais en fait, en nombre de population, on est une petite ville.
Mais ben je voudrais m'expliquer tout ça, parce que tout ça part d'un pari en 2020 consistant à dire il faut faire autre chose et on peut faire autre chose pour notre ville. J'ai porté un projet qui était un projet, je crois, assez fort, et je suis assez fier que nous l'ayons mis en œuvre, parce qu'aujourd'hui, quasiment 90% de ce que j'avais promis est soit réalisé, soit en cours de réalisation. Je suis très attaché parce que je crois qu'une grande partie des maux de la politique française, de la démocratie dans notre pays, vient du fait que la parole publique, les gens n'y croient plus. Bon, j'ai tendance à penser que si déjà au niveau local, on arrive à dire ce qu'on fait, à faire ce qu'on dit, c'est déjà une bonne chose. Je suis donc très très attaché. Et le pari de départ, d'ailleurs, souvenez-vous de l'élection municipale de 2020, enfin, absolument tous mes adversaires disaient que mon projet était fou, irréalisable, qu'on allait faire exploser le budget de la ville, etc. Bon. Et donc, mon idée, initialement, était de dire que celles et ceux qui pensent que la ZAC des quartiers du 15-9, il faut la faire différemment, qu'il faut amener de l'emploi dans cette ZAC, parce que le projet de départ, c'était de dire qu'il faut créer des emplois pour arriver à maintenir une population permanente dans notre ville. Pas juste des logements. Les gens viennent pour avoir un logement, ils veulent un emploi aussi, sinon ils ne resteront pas. Bon, ceux qui pensent que mettre 15 millions d'euros sur le parc des sports, c'est essentiel, parce que c'est aussi de la diversification économique de notre territoire. Voilà, on vit l'hiver, on vit l'été. Voilà là un outil qui peut nous permettre d'accueillir des sportifs, des équipes, qui peut nous permettre de faire travailler toute l'année. Celles et ceux qui pensent que notre ville, sur les grands événements, sur la politique touristique, elle mérite de se développer par le haut. rejoignez-moi et puis on va faire ensemble. Et puis, si on vote pas pareil aux élections présidentielles, c'est pas très grave, on sera dépassé ces clivages-là et c'est ce que nous avons fait. Mmh. Et j'y suis très attaché parce que ce que je crois, c'est que Briançon, aujourd'hui, arrive à un stade assez crucial. Déjà, elle s'est beaucoup développée. Moi, je suis très heureux de voir que ces chantiers-là, aujourd'hui, ils ont réussi, qu'ils trouvent l'approbation. Accessoirement, on a désendetté la ville. J'ai renégocié la dette et aujourd'hui, je peux dire, on a investi deux fois plus qu'avant. Mais par contre, on a continué à désendetter la ville qui est passée sous 40 millions d'euros de dette, c'est-à-dire sous un seuil de dette qu'elle n'avait plus connu depuis le 31 décembre de l'année 1987. Donc, on a désendetté tout en doublant le niveau d'investissement parce qu'on a réussi à réétaler la dette, à la renégocier et finalement à régler ce problème qui était le problème historique de la ville qui l'a bloqué. Et j'ai expliqué pendant longtemps, nous pouvions faire autrement, nous l'avons fait. Et donc, cette politique-là, ce sujet-là, consistant à dire Briançon, c'est une ville qui doit être tirée par le haut, par le tourisme, par une politique de l'emploi, par une politique économique, mais qui doit se servir de cette richesse-là pour investir pour la qualité de vie, pour tous, pour tous les Briançonnais, pour arriver à créer du logement justement pour celles et ceux qui ne peuvent pas se loger aujourd'hui parce que les prix du marché sont élevés. C'est ce qu'on est en train de faire à Rhône-Azur, c'est ce qu'on fait dans notre PLU où on a imposé 25% de logements dans toutes les nouvelles promotions immobilières qui soient réservées à l'accession sociale à la propriété, non plus seulement au logement locatif social. J'espère qu'on en parlera, c'est un sujet important. Bah, tout ça, je crois que c'est un projet pour la ville et ce n'est pas des clivages politiques ou partisans. Et je pense que c'est la bonne voie pour un territoire qui a besoin d'être uni parce que ce que tu as dit est juste, on est un trop petit pays, hein, je parle de petit pays à nous, pour se diviser. Et si les Hautes-Alpes, elles veulent jouer leur carte, si Briançon veut jouer sa carte, qui plus est maintenant qu'on a les Jeux Olympiques et qu'on est confronté maintenant, on est dans le grand bain là. Hein, je vous rappelle qu'on est sur la carte des sites à côté, marqué Courchevel, quoi, donc c'est pas la même chose. Et il faut qu'on soit unis et il faut qu'on avance tous ensemble.